Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. C'est un immense plaisir de retrouver dans ce studio Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour à vous quatre.
Bonjour Pierre.
And the winner is, et si comme dans le sketch de Coluche, le candidat était une candidate. 14h30 cet après-midi, le verdict pour la figure qui mènera les Républicains à la présidentielle. Match final Pécresse-Ciotti, Valérie Pécresse qui part favorite après les ralliements de Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin. Mais la surprise Ciotti est-elle de taille à le mettre, lui, en position de leader? L'étape d'après, accessoirement, c'est de battre Emmanuel Macron. Zemmour, de son côté, convie ses militants demain au parc des expositions de Villepinte. A-t-il encore du poids à droite? Est-il le scotch du capitaine LR? Nous le verrons. 12 cas du variant Omicron détecté en France et le gouvernement revient avec son arlésienne. Pouvoir fêter Noël sereinement cette année, on atteint le seuil de 50 000 cas par jour. Embouteillage sur les plateformes pour faire une troisième dose. Mais même avec les réfractaires, les trois quarts des Français sont vaccinés. Comment s'assurer d'une vaccination à 100%? L'Allemagne frappe fort en interdisant l'accès aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture et loisirs aux non vaccinés. Un plan d'impôt exponentiel est aussi à l'étude. Pourquoi pas chez nous? Comment faire plier les 6,5 millions de réfractaires? Nous poserons la question aux grandes voix. Un contrat d'armement historique pour la France, 17 milliards d'euros pour la vente de 80 Rafales et 12 hélicoptères aux Émirats Arabes Unis. Une réussite diplomatique pour le président de la République actuellement en tournée dans le Golfe. Mais voilà, les critiques fusent. La France a-t-elle sa place dans les contrats d'armement avec le prince Mohamed Ben Zayed? D'autant qu'aujourd'hui, le président s'entretient avec Mohamed Ben Salman. Déjà, les ONG sont vent debout. Comment comprendre tout cela alors qu'on vient de rater un contrat de 60 milliards avec les sous-marins? Vous avez le programme? Les grandes voix, c'est parti. C'est le jour J, on sera donc aujourd'hui 14h30 qui sera l'adversaire des LR contre Emmanuel Macron. Et même si Xavier Bertrand caracolait en tête des sondages, c'est Éric Ciotti qui arrive en tête, bien devant le président des Hauts-de-France, 25-59% pour le Niçois, suivi de Valérie Pécresse à 25%. Le résultat du second tour, c'est donc aujourd'hui. Qui va gagner et pourquoi, Michel Cotta?
D'abord, alors, il faut être prudent parce qu'on est à 3h30, à 3h du scrutin. Et dans ce cas-là, il n'y a jamais de raison d'aller trop vite dans les conclusions. Il reste que, si on additionne quand même le nombre de voix, c'est Valérie Pécresse qui est tout à fait la favorite. Moyennant quoi, on ne peut pas dire que Ciotti a raté son combat. Parce que la vraie surprise de cette séquence, hein, d'abord, c'est que c'était un succès, grosso modo, pour les Républicains. Parce que d'abord, ils ne sont pas divisés, ils sont restés très corrects. Et en plus, ils se sont désistés, si j'ose dire, les uns avec les autres, avec une grande classe. Bon. Il reste que la surprise Ciotti, qui n'étonnera pas d'ailleurs, qui n'étonnera pas ni à la méridionale que je suis, ni dans les Alpes-Maritimes, ni ceux qui suivent Ciotti depuis longtemps, il y a véritablement autour de lui un courant qu'il a su maîtriser
et préserver.
Bon. Donc, on se trouve quand même aujourd'hui avec Valérie Pécresse, qui est favorite, entre deux personnes qui sont arrivées et arriveront à trouver des passages, des ponts,
des passerelles.
Et des passerelles, mais qui ne sont pas sur le même niveau et montrent quand même que les Républicains sont divisés en deux parties peut-être inégales, mais une partie, mettons, plus républicaine et une autre plus forte, plus volontaire plus et contre, naturellement, le terrorisme.
Catherine.
Oui, logiquement, ça devrait être Valérie Pécresse qui l'emporte. Mais il y a quand même aussi beaucoup de déçus.
Avec l'addition, on est à 76% des voix.
À 76% des voix, mais bien sûr, elle ne les aura pas, parce qu'il y a beaucoup de déçus chez ceux qui ont voté pour Barnier, pour Xavier Bertrand. Il y a des déceptions, parce que ce n'était pas leur candidate.
Qu'ils font, ceux-là? Ils s'abstiennent?
Mais je ne pense pas. Ils ne vont pas s'abstenir, mais il y aura peut-être des défections. Donc, le vote devrait être plus équilibré. Si Mme Pécresse est candidate, là, le chemin reste à faire pour elle. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que dans la prochaine, si c'est elle qui est désignée, ça voudra dire que pour la prochaine présidentielle, il y aura trois femmes qui représenteront des grands partis. Anne Hidalgo pour le PS, enfin qui ne va pas bien, mais qui est héritière d'un grand parti. Madame Pécresse pour les Républicains, et puis évidemment Marine Le Pen, qui en sera à sa troisième élection. Donc, la question est de savoir si Valérie Pécresse peut arriver en deuxième position. Voilà, c'est la seule chose. Là, pour l'instant, dans les sondages, on lui donnait 11%, mais les sondages ne veulent rien dire, puisque pour l'instant, elle n'est pas encore la candidate investie par les Républicains. Donc, c'est tout l'enjeu. Est-ce qu'elle va... Alors, une fois qu'on la regarde comme une candidate, va-t-on lui trouver beaucoup plus de qualités parce qu'elle en a et qu'elle a été une très bonne présidente de région. Elle a de l'autorité, elle a un bilan derrière
ancienne
elle.
Ancienne ministre aussi.
Ancienne ministre. Quand je lis ce matin dans le Figaro les attaques contre elle des macronistes, on voit qu'ils sont quand même inquiets. Voilà, donc, c'est tout le challenge pour elle.
Gérard Kerrérou.
Alors sur le vote des Républicains, effectivement, à quelques heures, c'est très court. Moi, je me suis livré parce que on l'a tous fait. C'est un peu notre façon de fonctionner. On a fait des petits calculs, des petits tripatouillages en regardant les chiffres, etc. Moi, je vais vous livrer le résultat du mien. Je pense que ça sera effectivement 60-40, autour de 60-40 en faveur de Valérie Pécresse. Mais je n'exclus pas une hypothèse un peu plus encore favorable. Je me dis, pourquoi pas, vu la dynamique Ciotti du premier tour, on peut peut-être imaginer 55-45. Enfin, c'est plutôt 60-40. Bon, ça, c'est pour... Et Ciotti, on l'avait d'ailleurs autour de cette table ici. On avait bien décrit la révélation qu'il avait été dans cette compétition. Donc, on ne s'est pas trompé. Peut-être on sera trompé sur la suite. Mais
c'est l'Institut de sondage Kerrérou.
Non, c'est l'Institut de sondage des grandes voix.
Gérard a raison. Dès le premier débat, nous avions signalé l'émergence de Ciotti, qui était le plus clair.
Et au dernier, celle de Valérie Pécresse.
Et moi, je pense...
Attends, je n'ai pas fini. Je voulais simplement dire ça, c'est la première question. Donc le débat, on verra dans 2 heures.
Et la deuxième,
c'est... Bon, si c'est Valérie Pécresse qui est candidate, on va avoir quelque chose qui va être quand même extraordinaire. C'est un formidable match à trois, ayant, je dirais, sur le départ, des capacités à peu près semblables, autour de 15% des voix. Pour Marine Le Pen, alors ça peut être entre 15 et 18, mais en tout cas, c'est l'idée. On va avoir trois candidats qui seront à touche-touche, et à certains moments, on risque d'avoir dans les sondages l'un qui monte un peu, qui dépasse nettement, et puis qui redescend. On va avoir 4 mois formidables, avec les trois candidats autour de 15%.
Charles Villeneuve.
Moi, je pense que ce qui me frappe, d'abord, la surprise Ciottis n'en est pas une. Parce que qui a suivi tous les meetings d'Éric Ciotti, c'était du simple au double par rapport à ses concurrents, au niveau de la fréquentation des meetings.
Et de l'applaudimètre.
Largement. Alors, ce qu'il y a de caractéristique, c'est que Ciotti et Valérie Pécresse ont été les deux candidats, pour moi, les plus résolument à droite. Si c'est Valérie Pécresse, je pense que le président de la République entre dans une zone à risque avec elle. Parce qu'elle dirige une grande région, l'Île-de-France, parce qu'elle a été une excellente ministre du budget sous Sarkozy, excellente ministre de l'enseignement supérieur. Elle sait ce que c'est, les chiffres. Elle ne se fera pas balader comme l'a été notamment Marine Le Pen en 2017 par rapport au président. Et ça, c'est assez important de le dire. L'effet femme aussi peut jouer à plein, parce qu'il est possible que ça puisse être un événement majeur, justement, que ce soit une femme qui soit opposé à Emmanuel Macron. Si c'est donc Emmanuel Macron,
bien sûr. Ce n'est pas la première fois.
C'est pas la première fois, mais c'est un effet.
Mais ce n'est pas la même femme.
Mais ce n'est pas la même femme,
oui.
Absolument.
Et puis,
je trouve qu'il y a un signe, justement, qui inquiète à l'Élysée, comme je le vois écrit dans pas mal de journaux. C'est que l'offensive fulgurante Blitzkrieg, de tous les macronistes, qui favorisent et qui étaient parfaitement, jusqu'à d'ailleurs l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, évidemment, pour eux tous, c'est une aubaine s'ils gagnent ce soir, Ciotti. Parce qu'au moins, c'est la droite dure, ils pourront de toute façon sortir eux aussi leur canon, si vous voulez, de 75. Mais si c'est Madame Pécresse, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus ambigu. C'est une autre affaire.
Il reste quand
Michel
même
Cotta.
Que le Parti républicain, qui donc a existé ce moment-là, reste un peu coincé, c'est le moins qu'on puisse dire, entre d'un côté un macronisme qui est quand même qui se déporte vers une droite libérale et une extrême droite que pourrait rejoindre effectivement Éric Ciotti. Donc l'espace politique DLR, il ne faut quand même pas n'a pas été changé par ce mois où ils sont apparus tout le temps à la télévision. L'espace politique de l'air est très restreint, mais il le sera moins, il me semble, avec Valérie Pécresse qu'avec Éric Ciotti.
Mais, oui, mais Michel, il y a quand même une force de Madame Pécresse. C'est peut-être elle saura créer une dynamique, mais il y a une force quand même qui déjà existe. C'est l'extraordinaire potentiel qu'elle a dans le pays d'élus, aussi bien dans les deux assemblées que dans les conseils généraux et régionaux. Si elle sait mobiliser cette force-là, elle est extraordinairement... C'est le premier parti de France, oui. Les LR. Et c'est un parti implanté. C'est ça qui a
au
manqué.
Local, oui.
C'est ça qui manque c'est ça qui manque d'abord à Macron, parce qu'il n'a pas de parti. Il essaye
de
rabibocher des branches pour en faire un.
Il
n'en a pas. En 4 ans, il n'en a pas fait un.
Mais il n'a pas d'élu.
C'est ce qui manque également à Zemmour. On le voit très bien, cruellement. Il n'a pas d'élu. Et c'est ce qui manque à Mme Le Pen, parce qu'elle n'a pas réussi au régional à gagner une ou deux régions.
Elle a perdu des élus.
Et on va parler d'Éric Zemmour dans un instant. Les grandes voix reviennent. Restez avec nous, c'est Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et Zemmour dans tout ça. Pèse-t-il encore dans tout ça? Les Républicains vont élire leur candidat. On l'a dit, l'adversaire bien nommé, c'est Emmanuel Macron. Éric Zemmour, lui, tient un grand meeting demain après avoir diffusé un clip sur la France d'aujourd'hui qui, selon lui, n'est plus celle d'autrefois. Et se pose non pas comme un adversaire de Macron, mais comme un adversaire du système. Question, jusqu'où il va comme ça? Et... quelle passerelle, s'il y a une passerelle, avec les Républicains, les grandes voix?
Moi, je ne sais pas. Il est confronté, Éric Zemmour est confronté à un fameux trou d'air, quand même. Parce qu'on le voit, il se creuse, ce trou d'air, pour l'instant, en tout cas, à la veille de ce rassemblement à Villepinte. On le voit dans les sondages qui patinent, on le voit dans les soutiens qui se défilent, on le voit avec des opposants qui l'empêchent de manifester, et notamment... on est en train, ou quasiment, de le faire passer pour un fasciste. Et je pense que c'est aussi... on va franchir ce seuil avec le vainqueur des LR, Éric Ciotti. Mais pour revenir à Éric Zemmour, puisque c'est de ça dont il s'agit, je pense quand même que c'est très difficile de reprendre le blitzkrieg, en quelque sorte, c'est-à-dire l'attaque en force, l'offensive en force qu'il avait déclenchée. Et les signes pour l'instant ne sont pas positifs, parce que quand je dis que évidemment les ralliés, ou en tout cas les personnalités qui devaient être présentes ne le sont pas, ne serait-ce que Philippe de Villiers, qui était un apport indéniable. Mes camarades vous diront de toute façon qu'il a l'habitude
de se défiler au dernier moment.
Il ne faut pas le compter parmi ses amis, voyez.
Voilà. Bon. Mais le meeting de Villepinte lui permettra-t-il de retrouver le fil de sa campagne? Je suis sceptique.
Mais, Catherine.
Moi, je trouve qu'on a beaucoup dit que Gilles Boulot l'avait mal interrogé. Mais qui avait-il face à face? C'est un débatteur, c'est un candidat qui avait l'habitude des médias. Et que n'a-t-il interrompu Boulot pour lui dire « Dis donc, mais moi, je suis venu pour vous parler de mon programme. Posez-moi des questions sur mon programme au lieu de m'embêter avec des questions annexes qui n'ont aucun intérêt pour ceux qui voudraient éventuellement voter pour moi. » Il n'a pas su le faire. Et après, il a quitté le studio furieux en le traitant de connard, puisqu'il l'a dit, je le cite, entre guillemets. Bon, voilà. Donc là, il a mal maîtrisé déjà cette chose, vous voyez. Donc, il ne peut s'en prendre qu'à lui. Bon, en ce moment, on le voit bien. Moi, je crois qu'il y a eu, pendant le mois d'octobre, la sortie de son livre, une overdose. On ne pouvait pas ouvrir sans entendre parler de Zemmour. Et il y a une lassitude. Et c'est vrai, les soirs où on ne parlait pas de Zemmour, on disait « Ah, ben un peu de repos ». On a senti ça aussi, bien qu'il soit intéressant. Et je ne l'ai pas vu, je confesse, je n'ai pas vu son enregistrement à la De Gaulle et tout ça. Je n'en ai vu que des bribes parce que j'étais occupée. Et moi, mon premier réflexe a été, je n'ai pas tout vu, il paraît que le texte est beau, mais moi j'ai eu un fou rire, vous voyez, je trouvais ça grandiloquent, un peu...
Je crois que vous n'êtes pas seule, Catherine.
Voilà, un fou rire. Donc, alors, pour l'instant, écoutez, je pense qu'il est dans une mauvaise passe. On va voir s'il y a foule, si demain il y a une foule dans son meeting, Bon, mais peut-être, il va reprendre. Je ne l'enterre pas, mais je ne le ressuscite pas non plus.
Gérard Carrère.
Oui, alors d'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Catherine, sur l'analyse de l'interview, mais je ne veux pas y revenir parce que c'est déjà
mais
du passé.
Mais tu l'avais déjà dit, mais oui, mais voilà.
Effectivement, je viens à la... qu'est-ce qu'a démontré Zemmour? Il a fait, puisqu'il fait du Napoléon, Alors, Napoléon le Grand ou Napoléon le Petit,
il y a deux Napoléons.
Mais en tout cas, il fait du Napoléon. Il a fait le premier Napoléon. Il nous a fait une stupéfiante première ligne. Ça a été le bon d'Arcole du Bonaparte.
Voilà.
Tu as raison.
Bien.
Et il est monté quand même de zéro. Enfin, en gros, c'est quand même l'homme qui a fait de 0 à 17%.
Ouais, c'était fulgurant. Bon,
c'était fulgurant. Et puis, il nous a fait, dans la foulée, du Napoléon Bérézina, si vous voulez, parce qu'il nous a fait là un reflux des erreurs accumulées, un trop-plein d'erreurs qui, à un moment donné, a fait que les gens, même les mieux disposés à son égard, ont commencé à se poser des questions, et le reflux. Et on est dans cette fin de phase de reflux. Il a là, dimanche, une opportunité. Où c'est effectivement une assistance extraordinaire. Il fait ses presque 20 000 personnes. Il a un discours de grande qualité. Il annonce des choses. Il donne une idée de ce que va être ses lignes directrices. Et dans ce cas-là, il peut rebondir. Ou alors, moi, je n'ai pas d'opinion encore. Hein, j'attendrai le discours à la seconde. Ou alors, il ne rebondit pas. Et dans ce cas-là, il sera happé par le système.
C'est-à-dire que s'il continue à faire le clip, entre guillemets, qu'il a fait en vidéo, ça ne décollera pas.
Le clip, pour moi, n'était pas un échec. Le clip était intéressant, mais ce qui était...
Vous n'avez pas ri comme Catherine?
Non, je n'ai pas
mais
du
moi,
tout
moi, j'en ai vu des bribes, mais je ne sais pas pourquoi
non,
je
mais il y avait trop. Y avait le principal reproche qu'on peut faire, c'est... Oui, il y en a marre de la nostalgie. Quoi. On ne peut pas vivre en permanence. Moi, je suis un peu nostalgique de certains moments qu'on a vécu quand on avait 20, 30, 50 ans. On ne peut pas vivre avec la nostalgie. Or, le clip, c'était la France d'avant. Et on ne peut pas simplement dire mon programme, c'est la France d'avant.
C'était mieux avant. Michel Cotin.
En fait, ce qui va se passer, c'est l'histoire d'un tempérament. Parce qu'on voit bien que les hommes politiques ou les femmes politiques ont l'habitude de se faire étrier complètement. Ça a été le cas de Marine Le Pen, ça a été le cas de la plupart des présidents qui sont succédés. Ils ont du coffre. Maintenant, il faudra voir si, au fond, Éric Zemmour, qui est apparu comme ça dans les cieux, un peu poussé par la presse quand même, et au-delà, il faudra voir s'il résiste au choc. Et moi, je ne suis pas sûr. Je crois qu'en matière de politique, comme disait Pompidou, l'essentiel n'est pas d'être intelligent, l'essentiel est d'avoir du caractère. Alors, il aura peut-être du caractère, mais supporter effectivement une montée aussi forte et une descente qui s'annonce ou qui peut s'annoncer, c'est très, très difficile à supporter pour un homme politique.
Non, je brûle d'envie simplement de dire ce que je pense quand on utilise l'expression « Bérézina ». Il faut savoir que les pantonniers de Masséna ont sauvé la Grande Armée.
On est d'accord.
Ils se sont sacrifiés dans les eaux glacées. Et ils ont permis à la Grande Armée de reculer en bon ordre.
Et permis à l'empereur de s'en aller.
Napoléon.
Eh bien, une nouvelle pause. Et on revient tout de suite avec les grandes voix. On va parler du Covid, tiens, pour changer.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
C'est animé ce matin, je peux vous dire. C'est animé en studio avec Gérard Carrère, Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotin. On a du mal à les tenir. Nous sommes à 50 000 nouveaux cas de Covid par jour. 50 000, malgré trois quarts de la population vaccinée et même certains qui ont eu la troisième dose, ont réussi à attraper le virus. Omicron gagne du terrain, il est très contagieux. 12 cas en France selon le dernier décompte. Le gouvernement veut un Noël serein pour tout le monde. Alors, Conseil de défense sanitaire lundi, que va-t-on décider? Sachant que, pour reprendre l'expression, tout est sur la table. Catherine Ney.
Oui. Alors, on parle beaucoup d'Omicron, mais pour l'instant, la cinquième vague, c'est avec le Delta.
Oui. Bon.
Et ce qui est évidemment ennuyeux et préoccupant, c'est que je connais beaucoup de gens qui sont deux doses et qui, en ce moment, sont malades avec des symptômes d'une très grosse grippe, très fatigante, quoi. Voilà. Bon, ils ne vont pas forcément à l'hôpital. Et ceux, aujourd'hui, qui vont à l'hôpital et aux urgences, ce sont en majorité des gens qui ne sont non vaccinés ou des gens qui ont déjà des pathologies graves. Voilà, c'est ça. Donc, d'où l'idée qu'il faut absolument se vacciner et vite. Mais on sent déjà une psychose chez les gens qui essaient de sortir moins, qui commencent à avoir peur. Alors, le gouvernement doit à la fois les rassurer, les forcer vers le, à se vacciner. Et puis,
les forcer, vous dites les forcer.
Ben oui, oui, comme le sont en train de faire les Allemands. Voilà, ouais, ouais. Voilà. Bon. Parce que c'est le
donc
seul moyen.
Donc avec des amendes exponentielles,
mais enfin,
avec
peu importe,
une interdiction
c'est à, c'est au gouvernement. C'est à gouvernement de le dire, mais c'est vrai, les responsabiliser. Et puis, surtout, éviter que cette crise, la crise économique, enfin, on ne replonge pas dans un nouveau confinement.
Mais Macron, alors moi, ce qui m'a rassuré, oui. Parce que je voyais monter les peurs. Je voyais monter la psychose, et je la vois toujours,
oui,
je l'entends toujours, la peur monte et la psychose monte.
Et elle est,
d'une certaine manière, cette peur, elle est encouragée toujours pareil.
Catherine par, qui remet son masque.
Par quelques-uns des éminents médecins qui s'expriment sur les plateaux. Et elle est exprimée aussi en texte, en sous-texte, comme on dit maintenant, par le Premier ministre Castex et par le ministre de la Santé Véran. Mais ce qui m'a rassuré hier, j'ai trouvé quand même un ballon d'oxygène avec ce qu'a dit le président de la République dans les Émirats. On a retenu d'autres sujets dont on parlera tout à l'heure, oui. Mais il a dit sur le Covid qu'il n'était pas, lui, alarmiste. Et on a l'impression qu'il est un peu sur la ligne de janvier dernier, quand contre tous les alarmistes qui voulaient resserrer tous les trucs, il avait dit non, on ne va pas reconfiner, etc. J'ai l'impression que le président de la République reste sur cette ligne et que bon, il faut adapter, il faut,
mais il ne faut pas... Il n'a pas intérêt, là, à 4 mois de la présidentielle. De
bien sûr, il n'a pas intérêt, mais en même temps, le peuple
non
plus, il n'y a pas
intérêt. Je pense sincèrement que depuis qu'il a pris la décision fondatrice de ne pas confiner, il reste sur cette position. Voilà. On vit avec cette affaire depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'accepter des restrictions généralisées? Je pense que la réponse est non. Et que le président de la République l'a très bien compris. Parce que nous avons été soumis, et nous l'avons accepté bien sûr, à une politique de vaccination intense. Mm-hmm. Et c'est ce qui nous préserve quand même. La remarque tout à l'heure, en tout cas l'information que soulignait Catherine Ney il y a quelques instants, sur le fait que certains sont vaccinés sont malades, mais sont malades chez eux. Parce que évidemment, ils ont chopé le fameux variant qui est assez contagieux. Maintenant, le nouveau, on le dit contagieux, mais on le dit moins virulent.
On n'en sait rien.
Mais les premiers signes de Pfizer, je m'excuse, mais aux États-Unis, notamment dans le New York Times hier, il y avait le docteur Fauci qui est celui qui régule la politique de santé des États-Unis. Et avec Israël, ce sont les deux pays les plus avancés, en disant qu'il semble de toute façon que les premiers signes nous montrent qu'il est moins virulent que ne l'a été la mutation du variant.
Et il reste le problème d'Emmanuel Macron face à ça, parce qu'on dit effectivement qu'il ne pourra jamais plus reconfiner et je suis absolument d'accord avec Charles Villeneuve sur le fait que une fois qu'on a dit ça, dans une période où les médecins entiers dans leur plus grand nombre disaient « Oh là là, il faut confiner », il ne peut plus revenir en arrière. Bon, mais il reste que si l'épidémie monte, il ne peut pas non plus accepter que les hôpitaux soient en désordre, que les hôpitaux n'arrivent pas. Donc sa voie est étroite entre « Je reste comme je suis », je ne confine pas, et l'ensemble des médecins qui vous disent « Ah oui, mais alors l'hôpital, c'est encore...
Bon, » On est dans le paroxysme du en même temps.
Il aura forcément un choix à prendre, et le choix entre 1000 morts et la désorganisation de l'hôpital et le non-confinement reste très, très délicat à faire, justement en période politique.
Mais il y a un problème quand même qu'on n'a pas souligné, c'est qu'il manque de vaccins. On a un certain nombre d'alertes dans un certain nombre de départements. Aujourd'hui, pour la troisième dose, il y a des tas de pharmaciens et autres, ceux qui vaccinent. Alors, sera-t-on à la hauteur ?
Pfizer a déjà dit qu'il aurait du mal à fournir.
Voilà, on a un problème d'alimentation en vaccins.
Mais Gérard, moi je pense qu'il y a une autre question qui se pose. Est-ce que des mesures propres non vaccinées sont possibles, comme en Allemagne, justement, moi, il me semble que oui. Elles seront plus facilement acceptées que des mesures d'ordre général. Parce qu'on peut remarquer que les antivax sont moins virulents que cet été. L'opinion semble être en mesure, de toute façon, d'accepter ce type de décision. Il y a bien sûr le paramètre scientifique et sanitaire, mais il y a aussi l'acceptabilité sociale des mesures plus sévères que tu peux prendre. Et là est tout le doigté politique, si j'ose dire.
Alors, moi, je trouve qu'il y a un problème.
L'Allemagne, c'est juste pour rappeler, hein, le gouvernement décide d'interdire l'accès aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture et de loisirs, les marchés de Noël. Et il y a ce système qui n'est pas encore en place, mais qui est à l'étude, d'amende exponentielle. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vacciné, le premier jour, ça va vous coûter 1 centime, le deuxième, 10 centimes, le troisième, 1 euro, etc. Et ça va très vite jusqu'à 10 000 euros d'amende.
Oui, alors ça fait une bureaucratie incroyable pour le contrôle.
Ça ajoute un problème important, et encore plus difficile à régler. C'est le problème des enfants. Vous avez vu que sur les courbes, la montée des contaminations des gosses...
Plus 70, de plus 80%.
Voilà, et du 80%, on voit la courbe, c'est d'ailleurs terrible. Or ça, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire... Est-ce que, oui ou non, on fait vacciner les enfants, même si on a un vaccin spécial? Bon, on s'aperçoit quand même que c'est encore plus difficile à régler que celui des grandes personnes et que beaucoup de parents qui sont vaccinés eux-mêmes se disent « Est-ce que c'est vraiment le moment de vacciner mon gosse de 6 ans ?» Et ça, c'est aussi un vrai problème parce que les gosses de maternelle, ils contaminent évidemment l'ensemble des gens qu'ils voient après.
Une nouvelle pause avec les grandes voix et dans un instant, on parle du contrat signé par la France pour la vente de Rafale. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrère, un contrat mirifique, 17 milliards d'euros pour la défense française. La France vend 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis, 80 Rafales et 12 hélicoptères Caracal. Contrat historique, dit la ministre Florence Parly. Et pourtant, les ONG sont vent debout. La France nous fait honte, clame Yannick Jadot, candidat des Verts. Elle arme des régimes autoritaires qui méprisent les droits humains et dont la richesse s'est bâtie sur les énergies fossiles. Pas le seul Yannick Jadot à lancer des pavés dans la mare. Au centre des négociations, Emmanuel Macron et les hommes forts du Golfe, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, et l'héritier saoudien que rencontre Emmanuel Macron aujourd'hui, entaché avec l'affaire Khashoggi, MBS, le journaliste sauvagement assassiné en 2018. Quelle position pour Emmanuel Macron qui s'est borné à dire « je ne cautionne rien, je n'oublie pas », mais comment faire sans dialoguer avec l'Arabie saoudite? Est-ce que c'est faisable?
Écoutez, moi, vous savez que je suis relativement économe de mes approbations du président de la République. Dans cette affaire, je dis bravo, monsieur le président de la République. Il s'agit d'un contrat qui a été négocié par plusieurs ministres et présidents depuis une douzaine d'années.
C'est ça.
Et c'est un contrat, effectivement, qui est excellent pour nos ouvriers. Dassault Aviation, c'est des usines... Il y en a 7 ou 8 en France. Il y a 400 sous-traitants, des gros sous-traitants et des petits. Tout ça, c'est de l'emploi pour notre pays. Donc, c'est une garantie de charge de travail pour tous ces ouvriers. Et c'est un signe que la France, quand elle est à son meilleur, elle peut vendre ses produits. Elle le fait dans le luxe, mais il n'y a pas que le luxe. Il n'y a pas que les sacs Hermès et les produits de grand luxe. Il y a aussi, parmi les produits, nos avions et nos produits de défense. Et quand je vois tous les porteurs de la moraline, eux disent la morale, moi je préfère dire la moraline, c'est-à-dire le déguisement de la morale que sont les écolos, quand ils nous font des déclarations du genre « la France nous fait honte », etc. S'ils ont honte de la France, ils ont qu'à aller après tout aussi ailleurs. Parce que franchement, c'est un contrat qui est bon pour la France. Et même le Front National, je crois que c'est sur votre plateau hier, j'entendais un représentant du Laurent Front National Jacobi. Qui saluait au nom des intérêts des Français, qui saluait ce contrat. Eh ben, je me félicite que là, il y ait eu un petit penchant d'Union Nationale sur ce contrat.
Moi, je crois qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. De toute façon, rien n'est nouveau là-dedans. Les associations ont toujours protégé, les ONG ont toujours protesté lorsqu'on a signé des contrats de ce genre. Mais il faut bien voir que les contrats de ce genre, c'est aussi l'industrie française, la reprise de la cadence productive. Et c'est vrai qu'après 2 ans de Covid, moi, je suis vraiment plutôt contente que ce deal ait abouti parce que ça fait 70 000 salariés quand même. Alors moi, je veux bien qu'on se fiche des 70 000 salariés qui sont concernés pendant 10 ans, puisque ça doit durer 10 ans. Mais enfin, quand on est au pouvoir, oui, peut-être qu'on fait attention à ces 70 000 salariés qui autrement seraient quoi ? Ils seraient dans les champs et dans les plateaux du Larzac.
Non, mais est-ce qu'on peut enfin le dire ? Si la France n'y était pas allée, ça serait d'autres, en particulier les Américains. Non,
bien sûr.
Attends, mais d'abord, cette vente Mahous énorme. ne devait pas se réaliser de cette manière. C'est le F-35 américain, le nom de combat américain, qui était à la place en réalité du Rafale. Et ce qu'a décidé le cher Mohamed Ben Zayed, d'abord c'est un long processus. C'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui récupère ce processus, qui a commencé sous Jacques Chirac en 2002, qui s'est poursuivi avec Nicolas Sarkozy, François Hollande aussi, qui a été omniprésent à Abu Dhabi, qui est le plus important des Émirats, des sept Émirats du Golfe arabo-persique. Et le cher Ben Zayed, en réalité, a subi deux pressions très importantes, notamment du président des États-Unis.
L'actuel
bien sûr, Joe Biden, qui lui a fait savoir qu'il n'était pas question de continuer la coopération avec les Chinois en ce qui concerne l'équipement justement des vaccins, le vaccin chinois, l'installation de la 5G dans le golfe arabo-persique et bien sûr l'utilisation et l'achat de drones chinois. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est à partir de là que le cher a annulé la commande des F-35 et a choisi la France. Or, ce choix...
Pourquoi ? Parce que Joe Biden lui faisait, entre guillemets, la morale ?
Oui, non, mais parce qu'il faut savoir que dans tous ces pays-là, de toute façon, tous, depuis l'affaire du retrait précipité d'Afghanistan, ont un doute sur la solidarité, l'appui stratégique, le partenaire stratégique que restent quand même les États-Unis. Parce qu'il ne faut quand même pas non plus oublier que les États-Unis, c'est central en matière de défense, y compris pour la France, pour tous les pays de l'Europe.
Ils ont vendu à tout le monde depuis 25 ans, à tous les États. Il se trouve que Biden est un peu embêté parce que Biden a une majorité qui est un peu plus à gauche que lui. Bon. Il y a un certain nombre de sénateurs qui essayent aujourd'hui de bloquer. Voilà. Mais c'est une incidente. C'est parce que Biden a des problèmes avec ses sénateurs, mais c'est pas parce que Biden est un homme formidable qui ne serre lui la main
qu'au terminé. Ensuite, les autres voudraient intervenir.
Non, ce qui est important par rapport, en dehors du fait que ça rapporte 17 milliards à l'industrie de défense française, c'est-à-dire le double, plus du double de ce qui a été, si vous voulez, en quelque sorte, le Trafalgar de l'industrie navale française, avec la suppression des 6 sous-marins qui devaient équiper l'Australie.
Oui, et 60 milliards.
Et quel a été l'animateur principal de cette suppression ? C'est Joe Biden et son complice britannique, Boris Johnson.
What we did was clumsy.
Bon, ce partenariat stratégique, ce qu'il faut bien comprendre, crée de fait une interopérabilité entre la France, ses rafales, Abu Dhabi, bien sûr, l'Égypte, qui a ses rafales aussi, et surtout l'Inde, qui a déjà 36 rafales et qui va en sortir 100 fabriquées à Nagpur sur le territoire indien. Et cette interopérabilité, évidemment, a un objectif, c'est de s'ingérer, d'occuper l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire l'avenir dont on a été exclu avec la suppression de la commande. Et c'est ça qui est important. C'est que ce contrat de 100, d'ailleurs, qui va être sectorisé, parce que je ne pense pas que ces 80 rafales vont équiper seulement Abu Dhabi. Non, mais il faut l'expliquer.
Oui, ce qui est sûr, c'est que ce qui est sûr, c'est que l'intérêt de la France, c'est vraiment d'être présent dans ces pays-là et de garder une neutralité apparente entre les deux mondes. Et donc, pour ça, on ne peut pas à la fois vouloir la réindustrialisation de la France, vouloir sa place dans le monde et dire « Ah ben non, sur ce contrat-là, on cède notre coup. »
Oui, non, mais il faut dire aussi qu'avec le cheikh Ben Zayed, on a des relations depuis très longtemps avec les Émirats. Je veux dire, déjà sous François Léotard, la France avait vendu 450 chars MX aux Émirats. Donc, c'est une longue progression. Nicolas Sarkozy, lui, a installé trois bases militaires, donc une grande base aérienne, en espérant qu'on achèterait des rafales. Et donc, il avait négocié longtemps et ça n'avait pas abouti. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, mais entre-temps, dans les pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, on s'aperçoit maintenant que les Américains ne sont plus dépendants du pétrole américain. Ils exportent de l'énergie avec leur gaz
du pétrole arabe.
Donc, ils exportent leur gaz de schiste. Ils n'en ont plus besoin. Ils ne feront plus la guerre. Biden a dit maintenant, la seule chose qui nous intéresse, c'est nos intérêts vitaux. Or, le chèque, le prince héritier, son obsession, c'est l'Iran. C'est tout près de chez lui. Et il a besoin de ses avions pour cet équilibre de la terreur, parce que pour avec ces avions-là, voilà, pour se protéger. Et il sait aussi que ces avions sont les meilleurs. Alors avant, c'était Obama, ses successeurs qui téléphonaient, et évidemment Trump qui téléphonait en disant surtout acheter américain. Mais maintenant, quelque chose est nouveau. Le rapport avec les États-Unis a complètement changé.
Une pause, Gérard, vous direz un mot après. Et surtout, on comprendra avec Charles Villeneuve pourquoi est-ce que Jacques Chirac a été très important dans ce contrat. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
De retour pour une dernière partie avec Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Gérard, pardon, vous voulez rajouter un petit mot ?
Oui, je veux dire, le marché des armes est un marché mondial. Quand on est une grande puissance, on vend des armes. C'est vrai, les Américains, on l'a rappelé, les Russes le font, l'Angleterre le fait. Si on ne fait plus ça, nous,
l'Allemagne,
alors que c'est l'Allemagne même et la Chine, y vient, c'est un point de force. Quant au sang sur les mains, écoutez, moi, j'ai vu de mes yeux, puisque j'y étais, j'ai vu Mitterrand serrer la main de Brejnev, j'ai pas reproché à Mitterrand de serrer la main de quelqu'un qui avait noyé dans le sang un certain nombre de révolutions dans les pays de l'Est. Même chose avec le général de Gaulle, quand il a serré la main de Staline. Enfin, on ne peut pas construire une politique internationale sur l'idée qu'il faut de la morale, toujours de la morale, et la morale extensive.
J'ajouterai quelque chose à ce propos, justement, pour le dîner de ce soir entre le président français et Mohamed Ben Salman, qui dirige donc au nom de son père l'Arabie Saoudite. En 2030, l'Arabie Saoudite sera peuplée de 42 millions d'habitants, dont 70% auront moins de 30 ans. C'est cet avenir-là, si vous voulez, que le président de la République, quel qu'il soit,
il n'y aura plus d'État président.
Quel qu'il soit, doit tenir compte de cette évolution et regarder l'avenir, bien sûr le présent aussi.
Alors, en plus, il y a une réflexion du président de la République intéressante de ce point de vue. C'est comment pourrions-nous dire que nous aidons le Liban, que nous participons à la stabilité du Golfe, si nous ne parlions pas à l'Arabie Saoudite. C'est assez clair et assez vrai. C'est vrai, ne pas parler à l'Arabie Saoudite, c'est possible pour, je ne sais pas moi, si Monaco ne parle pas à l'Arabie Saoudite, c'est possible, mais nous, c'est difficile.
Voilà, et il fait un cadeau en arrivant. Il a obtenu par négociation la démission d'un ministre libanais qui avait beaucoup critiqué la politique du Saoudien au Yémen et ailleurs, et pour tout le reste, tout ce qu'on peut lui reprocher. Et donc, le ministre est parti, ce qui va peut-être permettre à la Arabie Saoudite de reprendre les importations des produits agricoles libanais qui avaient arrêté et qui étaient un gros manque à gagner pour le pays.
Vous parliez des rôles successifs des présidents de la République. Tout a commencé par Jacques Chirac, c'est ça ?
Oui, vers 2002, le père de Mohamed Ben, le prince héritier, on rappelle Ben Zayed, qui a pris cette décision et cette commande des 80 rafales. Le père, donc, en présence de son fils, de Jacques Chirac et de plusieurs diplomates, dont un avec lequel j'ai dialogué hier, là-dessus, le père a dit à son fils, tu vois cet homme, en désignant Jacques Chirac, écoute-le comme tu as pu écouter ton père, c'est-à-dire moi-même. C'est à partir de là, si vous voulez, que les liens ont commencé à se construire tout à l'heure. Catherine racontait qu'en réalité, c'est une lente progression de présence de la France, et Nicolas Sarkozy notamment a installé une base très importante, une base de renseignement. Non, mais l'une des trois bases, il y a la base aérienne où il y avait déjà 10 rafales.
Qui avait servi en Libye.
Voilà, il y a une base de toute façon qui sert c'est l'alerte de recul des forces françaises en Afrique. Et il y a aussi une base secrète ou semi-secrète qui observe en permanence tous les mouvements des navires et des frégates iraniennes qui vont et qui viennent dans le golfe arabo-persique.
Historiquement, l'Arabie était une terre dans laquelle l'Europe et la France en particulier exerçaient le rôle le plus grand pendant des années, pendant des siècles même. Donc il est absolument impossible pour n'importe quel président français ou n'importe quel gouvernement français de dire, voilà, nous n'aurons plus aucune prise sur ce qui se passe, l'Irak et l'Iran, sur ce qui se passe entre la Libye et l'Arabie Saoudite. C'est impossible, c'est une zone d'influence traditionnellement française.
C'est une zone intermédiaire par rapport à l'Indo-Pacifique, ce qu'on appelle qui est la zone d'avenir. Et il est bien évident que la France ne peut pas reculer sur ce plan.
Et qu'on a perdu.
Il ne faut pas oublier la zone d'influence dont tu parles, Catherine. C'était aussi celle des Anglais.
Elle, c'est Michel. Merci, les amis. Merci, Charles Villeneuve. Merci, Gérard Carrou, Michel Cotta et Catherine Ney. Et bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Nous allons passer à la casserole nos traditions en cuisine entre les astuces et les tours de main. Les traditions ont-elles toujours raison? On se pose la question et on partagera le plat du jour avec l'auteur-réalisateur Riyad Satouf. A tout de suite.
A tout de suite, merci Laurent.